Le pèlerinage à la Mecque, un des cinq piliers de l'islam, a de nouveau été endeuillé lundi, cette fois-ci par l'explosion de deux bombes près de la grande mosquée. Une personne a été tuée et 6 autres blessés lors de cet attentat qui s'est produit 45 minutes après la fin de la prière du soir, alors que des milliers de fidèles étaient encore en train de quitter la sainte mosquée. Les autorités saoudiennes ont peu après annoncé l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de ce qu'elles ont qualifié d'explosion criminelle. Explosion revendiquée mardi soir à Beyrouth par un groupe jusqu'à présent inconnu qui s'est donné comme nom la génération de la colère arabe. Cette organisation a précisé que ces explosions n'étaient qu'un simple avertissement à la famille royale saoudienne, une famille que ce groupe accuse d'avoir trahi et désacralisé les lieux saints de l'islam. Un langage qui ressemble à s'y méprendre à celui employé jusqu'à là par les autorités iraniennes qui, le même jour, commémorait le second anniversaire des affrontements de la Mecque durant lesquels plus de 400 pèlerins ont trouvé la mort, dont au moins 275 Iraniens. On peut alors se demander si Téhéran n'a pas commandité cet acte à un des groupes chiites du Liban. Une question que j'ai posée à Georges Joffé, journaliste et spécialiste des questions du Moyen-Orient.
Pour les Iraniens, la chose la plus importante, c'est que le contrôle des lieux saints à la Mecque ne sont plus au-dessus du contrôle saoudien, parce qu'ils ne considèrent pas que les Saoudiens sont les protecteurs appropriés pour ces lieux saints. Donc, les Iraniens essayent toujours de montrer l'incompétence des Saoudiens envers la sécurité du Hajj. Le fait que les incidents récents ont été réclamés par des groupuscules à Beyrouth d'Ouest me semble d'indiquer que peut-être il y a un lien chiite entre les événements et les revendications. Et en conséquence, on ne peut pas exclure une influence iranienne dans cette affaire.
Il y a eu d'abord donc la prise de la mosquée de la Mecque, puis il y a eu les manifestations de 1987, et donc lundi, il y a eu ces deux bombes. Est-ce que c'est quelque chose de dirigé de l'extérieur, ou alors on assiste à une cristallisation autour de la Mecque des événements proprement saoudiens?
Il y a les deux choses à la fois, c'est-à-dire que c'est évident, après la prise du mosquée à la Mecque il y a maintenant une décennie, qu'il y a une résistance interne en Arabie Saoudite contre les autorités saoudiennes. En même temps, on sait très bien que les Iraniens, après la révolution islamique en Iran, ont revendiqué que le Hajj est aussi un acte politique, une attitude qui a été rejetée totalement par les autorités saoudiennes. En conséquence, c'est bien possible que les événements récents, la bombe qui a explosé à la Mecque, représentent à la fois une résistance indigène contre les autorités saoudiennes et aussi un essai téléguidé, si on veut, de l'extérieur par l'Iran, de montrer leur dissatisfaction avec le contrôle qui est exercé à la Mecque par les autorités saoudiennes. Il ne faut pas oublier que les chiites en Arabie Saoudite, qui habitent dans les provinces de l'Est, ont souvent manifesté leur mécontentement avec les autorités de Riyad. Et je vois là peut-être une coïncidence entre les attitudes iraniennes et aussi les revendications des dissidents en Arabie Saoudite.
Georges Joffé, journaliste et spécialiste des questions du Moyen-Orient. Rappelons que l'Arabie Saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en 1988, et depuis cette date, la tension entre ces deux pays est très vive. L'Iran, sous Khomeini et encore actuellement, a toujours été anti-américain, alors que l'Arabie Saoudite reste proche des États-Unis et des pays occidentaux. Téhéran n'a pas également pardonné à Riyad d'avoir soutenu son principal ennemi, l'Irak. Les divergences entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sont également le reflet des divisions au sein de l'islam entre la majorité sunnite et la minorité chiite, division auxquelles s'ajoute la traditionnelle rivalité entre arabes et perses. J'ai demandé à Mohamed Harkoun, professeur en pensée islamique à la Sorbonne, si les lieux saints de l'islam ne sont pas en train de devenir le centre du contentieux irano-saoudien.
Ce qui se passe à la Mecque, c'est une lutte autour du capital symbolique que représente la Mecque, lieu saint par excellence pour tous les musulmans, pour enraciner toute l'action politique développée par la révolution iranienne d'un côté, par l'Arabie Saoudite et tous ceux qui sont autour de l'Arabie Saoudite dans le monde musulman, idéologiquement parlant, pour donner à ces deux politiques, qui sont très différentes, un enracinement dans une symbolique religieuse extrêmement riche. De la même façon, en France, le gouvernement français est en train de célébrer la Grande Révolution française pour donner, non seulement à la France, mais au monde, la signification symbolique de tout ce que représente l'action révolutionnaire qui a eu lieu en France au XVIIIe siècle. C'est donc les enjeux de pouvoir et les enjeux de sens qui, dans toutes les sociétés, aujourd'hui, quel que soit le degré d'évolution de ces sociétés ou de non-évolution de ces sociétés, je veux dire de modernité, toutes les sociétés s'attachent à retrouver la richesse de leur passé symbolique, que ce passé soit religieux ou qu'il soit laïque comme en France, pour essayer de donner un sens, une plus-value de signification, si je puis dire, à l'action politique des responsables politiques, mais aussi de tous les acteurs sociaux aujourd'hui dans toutes les sociétés. Et donc c'est un déficit de sens qui est signalé par ces gestes, soit de célébration, soit de combat autour d'un lieu saint, encore une fois, pour en récupérer l'authenticité symbolique.
Professeur Harkoun, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on assiste un peu à la résurgence du vieux conflit entre musulmans sunnites d'une part et musulmans chiites d'un autre?
Dès la mort du prophète, les musulmans se sont battus autour du capital symbolique que représente le Coran, révélation de la parole de Dieu, et l'enseignement du prophète Mohammed, pour essayer d'accorder cette richesse symbolique laissée dans le Coran et dans l'enseignement du prophète à l'action politique qui doit être menée par le chef de la cité musulmane. Et les musulmans se sont justement opposés sur l'héritier le plus proche du prophète qui soit capable d'assumer à la fois la grandeur de cet héritage symbolique et la grandeur de l'action politique qui doit être menée en fonction des enseignements de cette richesse symbolique, de ce capital symbolique. Et c'est cette lutte effectivement qui se poursuit, mais je viens de montrer que cette lutte n'est pas particulière aux musulmans, elle est dans toutes les sociétés, aussi bien dans le passé que dans l'actualité. Et ce qui est intéressant par conséquent à voir correctement pour ne pas regarder les musulmans comme des sortes de gens à part de notre histoire et qui seraient attardés dans quelques croyances religieuses désuètes, ce qu'il faut voir, c'est encore une fois le besoin où se trouvent nos sociétés de rechercher une plus-value de sens dans leurs richesses passées, que ces richesses soient religieuses encore une fois, ou qu'elles soient séculières, laïques, comme nous disons en France. C'est cela la chose la plus importante que tous les observateurs contemporains, et les journalistes en particulier, devraient essayer de voir et d'expliquer à nos concitoyens dans nos pays respectifs, mais aussi dans le monde.
Le fait que, par exemple, le régime iranien ait à plusieurs reprises demandé que la famille saoudienne, la famille royale saoudienne, soit dessaisie de la garde des lieux saints, est-ce que cela vous paraît justifié?
Dans l'idéal, dans un idéal théologique, il faudrait effectivement que les lieux saints ne dépendent pas d'un gouvernement politiquement trop marqué, mais qu'ils dépendent d'une autorité spirituelle indépendante d'un gouvernement politiquement trop marqué. Ça, c'est l'idéal théologique auquel l'islam adhère profondément, puisque la loi musulmane, ce qu'on appelle la charia, doit être définie par des imams mujtahids, c'est-à-dire des autorités religieuses qui ont acquis la connaissance des règles exégétiques pour pouvoir lire les textes sacrés et les interpréter correctement, indépendamment de toute pression politique, de toute autorité politique. Par conséquent, ceci est valable pour tous les gouvernements. Ça n'est pas seulement le gouvernement de l'Arabie Saoudite. Il se trouve que la Mecque est en Arabie Saoudite et que le gouvernement de l'Arabie Saoudite, légitimement, essaye d'exercer des responsabilités dans ce pays. Mais encore une fois, si on voit le problème d'un point de vue théologique strict, l'idéal serait effectivement qu'il y ait une sorte de haute autorité spirituelle dont dépendraient les lieux saints, tous les lieux saints d'ailleurs, ceci est valable pour toutes les religions, et pour tous les lieux saints de toutes les religions. Parce que c'est tout le problème justement du fonctionnement de la richesse spirituelle et symbolique des religions qui est en jeu aujourd'hui. Et aujourd'hui, les religions sont étatisées, et l'islam en particulier, est étatisé dans tous les pays musulmans. Donc ça n'est pas, il ne faut pas se braquer uniquement sur l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite a le privilège d'avoir sur son territoire deux lieux saints particulièrement importants, Médine et la Mecque. Mais il faut bien voir que tous les pays musulmans ont étatisé la religion. Donc en l'occurrence l'islam. C'est donc là aussi un problème général. Ça n'est pas un problème particulier à l'Arabie Saoudite.
Comment est-ce qu'on peut, en tant que musulman, poser une bombe dans un lieu saint?
Justement, je ne dirais pas en tant que musulman, je dirais en tant qu'acteur social et politique. Celui qui pose une bombe fait un acte social et politique. Il essaye d'utiliser le capital religieux, parce qu'il le fait dans un lieu saint, mais il est d'abord un acteur social et politique qui veut poser un problème politique. Donc il ne faut pas là faire la confusion, hélas, courante et constante, qui met sur l'islam, qui est une religion, des actes qui relèvent de l'action politique et d'objectifs essentiellement idéologiques. Il faut bien faire cette séparation et ne pas constamment mêler l'islam à ces choses-là. L'islam, comme toutes les religions, comme je viens de l'expliquer, intervient dans l'action politique comme soutien symbolique. Parce que toute société a besoin d'un soutien symbolique pour légitimer un pouvoir politique quelconque. Et c'est ce que le gouvernement français est en train de faire avec la célébration du bicentenaire. J'y reviens. Et ça me frappe beaucoup dans tous les discours qui se tiennent en France depuis qu'on a commencé, et nous sommes au sommet de cette célébration. C'est extrêmement intéressant pour l'observateur et l'analyste de ce qui se passe dans les sociétés de voir comment ce n'est pas la religion au sens traditionnel qui est en jeu, mais ce que j'appelle, comme Pierre Bourdieu, le capital symbolique d'une société. Tout pouvoir politique a besoin de se légitimer par un capital symbolique. Voilà pourquoi on choisit la Mecque pour mieux frapper l'attention, mais pour atteindre essentiellement des objectifs d'ordre politique.
Mohamed Harkoun, professeur en pensée islamique à la Sorbonne. L'autre invité de l'événement était Georges Joffé, journaliste et spécialiste des questions du Moyen-Orient.